Vous osez parler des souffrances que les hommes nous font subir?
J'écris simplement ce que j'ai sur le cœur.
Sous un nom d'homme, elle combat au nom des femmes.
Ce que j'ai écrit vous déplaît parce que ma cause est juste?
La Rebelle, les aventures de la jeune George Sand. Votre nouvelle série événement, demain soir à 21h10 sur France 2 et déjà sur la plateforme France.tv.
Aesio Mutuel présente.
Oh, salut Thermos, ça va? On profite de la retraite?
Ah, t'as pas idée, je passe mes journées au bain chaud.
Bah oui, t'as l'air changé, t'es beaucoup plus rouge-violet. C'est nouveau les cloques?
Mais quoi?
T'as une bonne mutuelle, rassure-moi.
Non, je t'ai dit que j'étais à la retraite. Pourquoi?
Non, pour rien.
Ne pas avoir de mutuelle quand on est à la retraite, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, c'est s'assurer d'une continuité dans sa couverture santé tout au long de sa vie. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Contactez votre conseiller dès maintenant. Renseignements sur aesio.fr.
Radio Classique.
8h, 8h30, c'est dans votre intérêt, avec David Jaco, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
Bonjour, nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Et votre invitée ce matin, c'est Sarah Taïeb, la directrice générale d'IB France, avec qui on parlera notamment du changement de modèle de la plateforme historique d'enchères en ligne. Et puis bien sûr, on reviendra sur cette folle semaine sur les marchés financiers qui a vu les bourses s'effondrer avant de repartir de l'avant après la volte-face spectaculaire de Donald Trump sur les droits de douane pour finalement trébucher de nouveau en fin de semaine. Mais d'abord, c'est le récap.
C'est dans votre intérêt, le récap.
Retour sur les meilleures infos patrimoniales de la semaine avec vous, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Bonjour Laurent.
Bonjour David.
Oh là là, dis donc, je vous sens drôlement à cran là, ça va?
Non David, non, ça va pas. Non, ça va pas, j'en peux plus moi, j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol le Grassin. Vous savez quoi? Eh ben moi je vais me mettre en grève moi, voilà. Fini les chroniques sympas du dimanche matin. Parce que moi, comment je fais pour faire du travail sérieux alors que le locataire de la Maison Blanche change plus vite d'avis que de caleçon? Je prépare un point sur la chute des marchés, mais Monsieur Trump décide dans la nuit de mercredi à jeudi que finalement il va faire un break sur les droits de douane, mais pas sur la Chine qu'il surtaxe à 145%. Et puis Monsieur Trump dit aussi sur son réseau social, 4 heures avant de prendre sa décision, que, je cite, c'est un bon moment pour acheter. Non mais avouez qu'il y a quand même de quoi virer à l'orange, au rouge, David.
Bon, vous en avez gros sur le cœur. C'est vrai que cette pause de 3 mois sur les droits de douane, sauf pour la Chine, c'est vrai que ça a pris tout le monde de court.
Hein. Chine qui a riposté hein, tout de suite d'ailleurs. Hein. Est-ce d'ailleurs, David, la peur du krach obligataire qui commençait à dangereusement se profiler? Toujours est-il que cette énième volte-face a produit des effets incroyables. Un Nasdaq qui gagne 12,16% mercredi en une séance, vous rendez compte, deuxième plus forte hausse de son histoire. Wall Street qui reprend, tenez-vous bien là, vous derrière votre café ce matin, plus de 4500 milliards de capitalisation boursière en un jour, selon l'indice Dow Jones US Total Stock Market, très concerné par les annonces, alors que son produit vedette, l'iPhone, est fabriqué en Chine. Apple signe pourtant à plus 15% en une séance, réclame sa place de première capitalisation mondiale à Microsoft, Nvidia et Broadcom qui grimpent de presque 19%. Et puis le lendemain, David, eh bien quoi, repatatras, les taux à 10 ans américains repartent à la hausse, le rendement des obligations à 30 ans augmente jusqu'à 4,9%, en passe de connaître leur plus forte hausse hebdomadaire depuis au moins 1982, le Nasdaq, bah, il repart en rouge, moins 4,3%. Bref, vous savez, c'est un peu la bourse version chat de Schrödinger. Est-elle vivante? Est-elle morte? Est-elle rouge? Est-elle dans le vert? Les deux en même temps, peut-être, on ne sait plus. Hein, voilà où on en est aujourd'hui. Et puis dans ce qu'il faut bien appeler un bazar absolu, l'once d'or imperturbable a dépassé la barre des 3 200 $. Et preuve de la défiance des marchés vis-à-vis des États-Unis, le dollar a lui atteint vendredi son plus bas niveau en 10 ans face au franc suisse et son plus bas niveau en 6 mois face au yen. Moi, je vous le dis, mon cœur ne va pas tenir longtemps à ce rythme-là.
Bon, allez, on va reprendre notre calme, Laurent. Encore que, puisqu'on l'avait dit la semaine dernière, la possibilité de déclarer ses revenus est ouverte depuis le 10 avril.
Et oui, on va parler impôts, mais avec une petite révolution pour les couples. À partir du 1er septembre, le taux par défaut retenu pour le prélèvement à la source des revenus, eh bien, ce sera désormais le taux individualisé et non plus le taux personnalisé du foyer fiscal.
Et là, nos auditeurs et auditrices doivent se dire, et je les comprends, ok, mais qu'est-ce que ça change concrètement?
Bah, c'est tout simple, ça permet de mieux prendre en compte les différences de revenus au sein du couple. Si vous gagnez moins que votre conjoint ou votre conjointe, votre taux sera plus faible, de quoi avoir une répartition plus équitable des charges fiscales au sein du foyer. Alors ne soyez pas surpris lors de l'entrée en vigueur de la mesure, ce sera donc en septembre, il m'est avis que ça va animer les dîners pour les distraits qui n'en auront pas entendu parler.
Bon, on reste dans le sujet avec les chiffres de l'impôt déclaré en 2024. 2024, un document publié mardi, c'est ça, oui, par la Direction Générale des Finances Publiques.
Oui, et d'ailleurs, on y parle de vous, David.
Ah bon, bah vos connaissances, je crains le pire.
Ah oui, parce que dans le détail, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien que les 10% des foyers les plus riches ont payé 76% de l'impôt sur revenu. Une proportion stable sur un an, mais qui progresse à plus long terme, puisque ce chiffre n'était que de 74% en 2020.
Bon, j'aurais dû m'en douter, en même temps ça fait longtemps que vous n'aviez pas fait le coup, cher Laurent. Bon, au lieu de dire des sottises et des fadaises, on apprend d'autres choses intéressantes.
Bah oui, quand même, hein, que sur les 41 millions de foyers fiscaux que compte la France, moins de la moitié, 45%, a payé les 83 milliards d'euros perçus, un chiffre en augmentation par rapport aux 82,1 milliards de 2022. Allez, je me fais la promesse de ne pas attendre le dernier moment pour m'y mettre à cette déclaration de revenus, peut-être ce week-end, tiens, qui sait.
Allez, tiens Laurent, et comme vous êtes arrivé tout énervé ce matin, vous avez décidé que vous n'alliez pas être le seul à être énervé dans un sujet où on reparle encore des passoires thermiques.
Non mais,
passoires
thermiques. J'ai appris un truc inouï. Je vous en parle assez souvent, hein, si vous êtes investisseur locatif de ces passoires thermiques, eh bien, vous avez parfaitement en tête cette interdiction d'augmenter le loyer d'un logement classé F ou G.
Oui, mais c'est normal, Laurent, c'est pour permettre d'améliorer l'efficacité énergétique du parc du logement. On n'est pas râlé là-dessus quand même, non?
Non, oui, c'est bien. Sauf que vous savez qui a le droit de le faire. C'est-à-dire d'augmenter les loyers d'une passoire thermique, nous apprend Le Parisien cette semaine, eh bien, les bailleurs sociaux. Et ce n'est pas anecdotique, parce que selon l'UFC Que Choisir, le parc social compterait à minima 6% de logements très énergivores, classés F ou G, soit un peu plus de 300 000 logements. Alors, une proposition de loi pourrait être déposée, hein, afin que on puisse mettre fin à cette drôle d'exception qui a un petit peu des airs quand même de « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Hein.
Bon, et puis preuve que rien ne va plus dans ce bas monde, même le roi du chocolat est en galère.
Pensez, le Suisse Barry Caillebeau, plus grand chocolatier mondial et fournisseur des grands industriels, a perdu plus de 21% en une séance après avoir revu à la baisse ses prévisions de volume et de vente pour l'exercice. En cause, on a déjà parlé, hein, la fulgurante progression du cours des fèves de cacao sur son premier semestre, même si cela s'est un petit peu calmé dernièrement. Bah, moi, je me suis dit donc, bah tiens, formidable, il y a un petit trésor qui m'attend bien au chaud dans mes placards sous forme de tablette plutôt que de lingots. Mais allez savoir comment, j'ai rien trouvé. Mon stock semble non pas fondre, mais littéralement s'évaporer. David, je crois mieux comprendre ce que voulait dire Jacques Brel quand il parlait de croquer la fortune.
Et avec le lundi de Pâques qui approche, j'allais pouvoir
me refaire
un petit stock de chocolat. Hein. Allez, merci Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama.
Merci David.
C'est votre invité à présent.
L'invité de David Jacquot.
Et votre invitée ce matin sur Radio Classique, c'est Sarah Taïeb, la directrice générale France de l'acteur historique du e-commerce eBay. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez rejoint eBay en 2013, vous en avez pris la tête en 2024. Qu'est-ce qui a changé en 11 ans chez eBay? Beaucoup de choses ont changé.
Je dirais que par rapport à mon arrivée chez eBay, beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup de nouvelles fonctionnalités et toujours surtout plus de services pour nos utilisateurs. Et toujours cette image méconnue d'eBay où on nous parle d'enchères et où on répond 80% d'annonces aujourd'hui sont à prix fixe.
Donc eBay, c'est même presque plus, ou en tout cas de moins en moins un site de vente aux enchères.
eBay, c'est la deuxième plateforme e-commerce dans le monde. C'est 134 millions d'utilisateurs dans 190 pays. En fait, on ne peut pas se définir que par ce format qui est nos origines, mais depuis lequel on a énormément évolué et encore une fois, beaucoup innové.
Parce que les ventes aux enchères étaient un peu en perte de vitesse aussi, parce qu'il y a des changements de comportement, de consommation, qu'il fallait évoluer avec les consommateurs.
En fait, c'est un mode d'achat qui correspond à certains objets et moins à d'autres. Aujourd'hui, on a une approche sur des catégories qu'on a définies comme prioritaires, les pièces détachées automobiles, les objets de collection. Et bien, typiquement, sur des pièces détachées automobiles, on préfère acheter à prix fixe.
Comment vous positionnez aujourd'hui par rapport aux mastodontes, aux Boncoin, aux Amazon, aux Vinted, etc. Comment vous positionnez?
Alors, la façon dont on veut se démarquer, c'est justement par l'innovation. Nous, on est une plateforme e-commerce et on tient à le rester. On est une pure place de marché. On n'est pas distributeur. Et notre objectif, c'est d'avoir la plateforme la plus facile à utiliser, la meilleure à utiliser.
Amazon l'est aussi. Ils sont à la fois vendeurs et marketplace.
Bien sûr. Et justement, alors, ils sont distributeurs et ils sont place de marché. Nous ne sommes que place de marché et nous ne voulons être qu'une place de marché. Donc nous sommes au service de nos utilisateurs et nous mettons la technologie au service des utilisateurs.
Et quelle technologie par exemple ? Différenciante par rapport à ce qu'on peut trouver, parce qu'il y a de la concurrence partout. Hein.
Oui, et je vais vous parler d'intelligence artificielle. Vous allez me dire, on en trouve partout. Nous, l'angle vraiment le plus important qu'on adopte, c'est que l'intelligence artificielle, encore une fois, doit se faire au service de nos acheteurs et de nos vendeurs. Je vais prendre des exemples très concrets. L'intelligence artificielle, on vient de signer un partenariat avec OpenAI pour que l'expérience de shopping pour nos utilisateurs soit personnalisée. Donc, il y a des recommandations qui est vraiment un algorithme toujours plus pertinent. Et puis, pour nos vendeurs aussi, puisqu'on est constitué de millions de vendeurs particuliers, de vendeurs professionnels.
Oui, quelle répartition d'ailleurs ? Vous me direz la répartition entre les vendeurs pros et les particuliers ?
Alors, je n'ai pas ce chiffre pour la France, mais au niveau monde, on est sur 80-20. Donc, encore une fois, on est majoritairement une plateforme où les transactions se font avec des vendeurs professionnels, des petites, des moyennes, des très grandes entreprises et des marques. Là aussi, encore une fois, parfois une conception sur laquelle on se trompe. Et encore une fois, l'intelligence artificielle nous permet d'apporter des nouveaux outils pour que la mise en ligne d'annonces, qui est fastidieuse et qui embête tous les vendeurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, soit plus facile et soit instantanée, tout en étant plus pertinente pour les moteurs de recherche et pour les algorithmes en dehors de eBay.
Ce qui a fait le succès d'Amazon, c'est aussi la logistique. Est-ce que, pour vous, c'est pas un frein, justement, de pas assurer cette partie-là qui est importante pour le consommateur, le dernier kilomètre, d'être livré en temps et en heure et de bonne manière?
On est encore une fois sur notre positionnement et sur le cœur de notre métier qui est d'être la place de marché. Et on s'associe ensuite, on fait des partenariats pour offrir les outils dont nos vendeurs ont besoin. Sur la partie logistique, on a ce qui s'appelle la plateforme d'expédition qui permet en fait à tous nos utilisateurs d'acheter et d'avoir des étiquettes d'expédition avec les plus gros faiseurs de tous les marchés, avec un tracking qui est intégré évidemment sur la plateforme. Donc les services sont là. Mais on s'associe avec des gens dont c'est l'expertise. Nous, notre expertise, on se concentre dessus, c'est la mise en relation des acheteurs et des vendeurs.
Et des vendeurs qu'on peut retrouver sur eBay ou sur Amazon ou sur Vinted ou ailleurs finalement. Les mêmes vendeurs ont différents canaux de distribution et de vente.
Alors ça dépend quelle typologie de vendeurs on adresse. La force d'eBay, c'est justement d'avoir tout type de vendeurs et encore une fois, tout type de commerce. Vraiment, et on sait que certains vendeurs nous sont exclusifs et fidèles parce que ils aiment cet environnement, ils aiment le fait qu'on ne soit pas en concurrence sur la plateforme et qu'ils soient sur une place de marché.
On a des chiffres sur la France, sur l'activité, ce que ça représente eBay en France en termes de...
eBay en France, c'est 10 millions de visiteurs uniques tous les mois qui nous sont fidèles. eBay en France, c'est, d'après le dernier classement Fevad, la cinquième place de marché de seconde main. Donc on est très fiers de cette position et d'être toujours au cœur des Français.
Vous avez raison, la seconde main, il faut en parler, Sarah Taïeb. La seconde main, qu'est-ce que ça représente ? Il y a une volonté d'être sur ce créneau-là. Après, c'est un créneau qui est porteur. J'ai vu qu'eBay ne participait plus au Black Friday depuis 2021. Il faudrait m'expliquer pourquoi, mais il y a ce besoin sociétal aussi de reconditionnement, d'achat de seconde main. C'est devenu un axe prioritaire pour vous ?
Mais comme je le disais, on veut être porteur en fait du e-commerce de demain. Nous, on a vu l'évolution du e-commerce au travers des années et des besoins des consommateurs. Et aujourd'hui, depuis 2021, on a pris des engagements pour porter une consommation plus responsable. Pourquoi ? Eh bien, 80% en fait de l'empreinte carbone d'un produit est liée à sa fabrication. Donc là où on peut agir, c'est en évitant encore une fois la surconsommation et c'est en prolongeant la vie des objets. Comment on prolonge aujourd'hui la vie d'un objet ? Eh bien tout simplement, on peut acheter de seconde main. Mais peut-être que vous n'avez pas envie d'acheter un objet de seconde main. Peut-être que vous allez pouvoir réparer un objet. Et pour ça, vous allez trouver des pièces détachées et même avoir des outils pour trouver la compatibilité de cette pièce détachée pour pouvoir réparer vous-même votre objet et faire des économies. Et enfin, si vous ne pouvez pas réparer vous-même, eh bien, il y a aujourd'hui un marché consolidé pour les produits reconditionnés qui s'étend sur de très nombreuses catégories qui vont vous permettre, encore une fois, d'acheter des produits dont c'est peut-être la seconde vie, mais qui ont été remis à neuf et qui bénéficient
d'une
garantie.
Vous avez des partenaires qui font ça ?
Exactement.
Encore une fois, place de marché, c'est cohérent.
Exactement. On a des partenaires solides, on a les plus grands acteurs du reconditionné en France et à l'étranger qui nous font confiance et qui ont leur boutique sur eBay.
Et vous leur faites confiance aussi parce que c'est pas rien, je veux dire, s'assurer du bon process de reconditionnement, de suivi, de test. Enfin, c'est voilà, il faut Tout le monde ne se vaut pas, comme dans toutes les industries, vous me direz. Hein. Comment s'assurer que le travail est bien fait aussi?
Alors, on rencontre nos vendeurs, on est très proche en fait de nos utilisateurs. Et les grands acteurs du reconditionné sont des gens qui sont des acteurs connus sur le marché. Donc, on
a une relation directe. Ils offrent.
Alors, la garantie légale de tout produit reconditionné en France est de 6 mois. Mais la plupart des acteurs, des grands acteurs qui, encore une fois, ont boutique sur eBay, proposent 1 an de garantie, ce qui permet vraiment de rassurer les utilisateurs sur ce type de consommation.
Après, on a conscience, on en parle souvent, les Français ont conscience des enjeux liés à la surconsommation, mais en même temps, c'est le paradoxe, c'est que les sites de fast fashion n'ont jamais aussi bien marché. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour sensibiliser justement à cette surconsommation?
Vous avez raison, et on le voit dans les derniers classements e-commerce, en effet. On a aussi envie de se faire plaisir. Et le message qu'on voudrait faire passer, c'est que cette notion de plaisir, elle n'est pas l'inverse de la consommation responsable. Au contraire, il faut les concilier. En fait, comment faire de cet achat qui est bon pour la planète un achat plaisir? Alors, il y a d'une part le besoin d'économiser, qui emmène des fois sur des plateformes à prix très bas.
C'est un vrai sujet, ça.
C'est un vrai sujet. Mais en fait, aujourd'hui, même pour réparer ma voiture, je peux avoir des pièces de réemploi. Et donc, avoir un devis vraiment inférieur qui va à la fois m'apporter ce plaisir, cette économie, mais cette fierté aussi d'avoir accompli un geste plus responsable.
Vous vous êtes fixé des objectifs en matière de seconde main, de reconditionnement?
Alors aujourd'hui, on est déjà à 40% de notre inventaire sur la plateforme. Qui.
20% les enchères, donc 40% en marketplace et 40% de reconditionné.
Voilà, donc on a aujourd'hui ce 40%, on espère dépasser en fait l'objectif des 50% dans les années qui viennent pour avoir vraiment une majorité en fait d'inventaire voué à...
C'est plutôt au classement sur le marché par rapport à vos concurrents.
Ah oui,
il y a des concurrents qui sont présents. Il y a la concurrence la plus farouche, elle est sur le neuf ou sur l'occasion?
C'est une bonne question. J'ai envie de dire que ma concurrence, c'est le neuf pour porter une économie plus responsable. Si tout le monde se bat pour une économie, encore une fois, plus vertueuse et des produits qui vivent une plus longue vie, à ce moment-là, on est ensemble sur la bonne cause.
Pour les collectionneurs, ça reste une plateforme eBay, il faut le dire, incontournable pour les collectionneurs. C'est franco-français, ça reste partout dans le monde pareil. Et quel type de collectionneur pour quel type de bien?
C'est un phénomène mondial, les collectionneurs. En France, je pense que c'est encore plus fort. Notre dernière étude IFOP montre qu'un Français sur trois fait une collection, ce qui est quand même énorme. Et encore plus intéressant, un Français sur deux entre 18 et 24 ans. Donc on a des fois l'image d'un collectionneur qui sera peut-être un peu plus âgé, mais c'est un phénomène toujours autant en vogue. C'est les nouvelles collections, puisqu'on se parle plutôt de cartes à collectionner, type Pokémon, ou bien les sneakers, les baskets de collection. Il y a même une approche d'investissement et de premier investissement sur ces collections, puisqu'on a vu le budget accordé aux collections qui a augmenté de 630 euros l'année dernière.
Donc en augmenté plus, à 630 euros ou de 630 euros?
De 630 euros. D'accord. Donc on dépense plus de 3000 euros sur une collection par an. Donc c'est un vrai investissement.
En France?
Oui. Ce sont des chiffres de notre étude IFOP. Et encore une fois, c'est une catégorie prioritaire pour nous et eBay est vraiment la plateforme de référence si vous voulez acheter des cartes Pokémon.
Sarah Taïeb, on parlait d'il y a 10 ans eBay. Dans 10 ans, eBay, ça ressemble à quoi?
Dans eBay, je pense qu'on sera toujours cette place de marché à empreinte vraiment globale qui permet de se mettre en relation avec des acheteurs et des vendeurs dans le monde. Et encore une fois, je pense que la technologie va se mettre au service de nos utilisateurs.
L'expérience client est vraiment meilleure quand on voit sur eBay par rapport à Amazon ou d'autres, encore une fois?
J'espère. En tout cas, en termes d'intelligence artificielle, je pense qu'on fera de tels progrès qu'il sera toujours plus simple de mettre en vente et que quand on pensera à un objet, l'objet de nos rêves, l'objet de nos passions, qu'on trouve toujours sur eBay, eh bien, il viendra de plus en plus facilement à toi.
Allez, merci Sarah Taïeb, la directrice générale d'eBay pour la France.
Merci.
Allez, on parle bourse à présent.
C'est dans votre intérêt, investissez-vous.
Avec Cyrus Erez, gestion de fortune depuis 1989, gérez votre patrimoine en toute harmonie.
On a vécu une semaine totalement folle sur les marchés financiers qui ont été au bord du précipice lundi et mardi avant de se ressaisir quand Donald Trump a fait machine arrière mercredi sur ses surtaxes douanières. Bonjour John.
Bonjour David.
John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. C'est vrai que c'est un incroyable revirement, coup de théâtre. Jusqu'à mercredi soir, le président américain paraissait inflexible et c'est sous la pression des marchés financiers qu'il a finalement plié en annonçant donc cette pause de 90 jours sur ses droits de douane réciproques qui ont, il est vrai, beaucoup choqué le monde.
Oui, parce qu'on a eu beaucoup d'anticipation. C'est ce qui a fait bouger énormément les marchés. D'abord, une anticipation que les États-Unis, voire le reste du monde, allaient rentrer en récession. On a aussi eu des anticipations qu'on allait avoir des mises en place de tarifs réciproques, même en provenance de l'Union européenne. Et en définitive, mercredi, on a eu une pause de 3 mois.
Qu'est-ce qui a fait changer David Donald Trump concrètement? Parce que le président américain a reconnu qu'il regardait le marché de la dette américaine. C'est ça l'explication?
C'est une des explications. Alors, il faut faire très attention ici parce que d'un côté, on a les rendements de la dette américaine qui ont fortement monté, c'est-à-dire que très concrètement, les États-Unis, pour que les investisseurs aient de l'appétit pour la dette américaine, eh bien, on leur donne un peu plus. Et à chaque fois que ça monte, on voit qu'on a un stress sur la demande de la dette américaine. Donc ça a sonné une sonnette d'alarme aux États-Unis. Le président américain avait promis aux Américains que les rendements du bon du Trésor allaient baisser alors qu'ils ont monté. Et puis la deuxième des choses, c'est ce qu'il a mis en avant, c'est que plusieurs pays, et notamment dans l'Union européenne, se sont mis d'accord et ont essayé de signer des accords avec les États-Unis, que des accords étaient en cours. Et le président Trump a dit qu'il n'avait pas besoin d'aller plus loin, en tout cas dans ces 3 prochains mois.
Il n'y a pas une forme quand même d'improvisation de la part de l'administration Trump? Il y a une semaine, le président américain se mettait en scène et mettait en scène ce tournant historique pour les États-Unis, pour au final tout suspendre quelques jours après. Est-ce que la Maison-Blanche a en tout cas donné le sentiment de naviguer à vue dans cette séquence?
Non, pas vraiment, c'est pas l'impression. En fait, la Maison-Blanche avait un plan très précis et dans ce plan, il n'y avait pas de tarifs réciproques. C'est-à-dire que il faut quand même rappeler que les États-Unis sont la première économie mondiale et que fondamentalement, le président Trump ne pensait jamais que les Européens et surtout les Chines pourraient remonter très fortement les taxes face aux États-Unis. Et il pensait aussi très sérieusement que le reste du monde se plierait aux exigences des Américains. Ça n'a pas été le cas, donc il a été pris au dépourvu. Et les marchés financiers se sont retournés. Et il faut rappeler une chose très importante ici, c'est que la majeure partie des Américains ont deux biens qui sont une maison ou un appartement et puis des actions en bourse qu'ils ont achetées ou qui leur ont été léguées. Et à chaque fois que le bien immobilier ou les actions baissent, eh bien, c'est de la richesse qui est en train de disparaître. Et évidemment, c'est son électorat qui est en train de disparaître. Il faut rappeler que on est dans une situation où dans moins d'un an et demi, on va avoir les élections de mi-mandat aux États-Unis que les républicains doivent absolument gagner pour mettre en place de nouvelles réformes.
Est-ce que on peut dire que oui, a priori, ce recul de Trump, c'est un gros soulagement pour les marchés financiers, pour les investisseurs qui commençaient à être très, très, très inquiets?
Oui, tout à fait. La problématique qu'on a vue, c'est que ça a amené énormément de volatilité en fonction des déclarations de part et d'autre, c'est-à-dire du gouvernement américain, mais aussi de la Chine. Et on a vu que les actifs refuges, comme on les appelle, qui sont l'or, qui a touché un nouveau record historique, et le franc suisse, en termes de devises, qui a aussi fortement progressé face au dollar et face à l'euro, eh bien, malgré ce soulagement qu'on a eu en milieu de semaine, voire en fin de semaine, eh bien, on voit que les actifs refuges sont toujours des actifs sur lesquels on investit parce que on a cette incertitude et parce que il y a toujours beaucoup de volatilité dans les marchés.
On a connu, il faut le rappeler, des mouvements de marché très, très, très spectaculaires, historiques, à la hausse comme à la baisse cette semaine, surtout toutes les classes d'actifs.
Oui, sur toutes les classes d'actifs, et on a vu notamment les classes d'actifs qui sont plutôt cycliques, comme la technologie, qui ont énormément bougé. On a vu la plus forte hausse en milieu de semaine, la deuxième plus forte hausse de l'histoire du Nasdaq. C'est dire comment ces mouvements étaient extrêmement violents. On a des valeurs réputées pour être matures dans la technologie comme Apple qui ont gagné plus de 15%, ce qui était du jamais vu sur ce type de titre. Et donc on est vraiment dans une semaine avec tous les superlatifs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques et qu'ils soient aussi monétaires, puisqu'on a aujourd'hui des anticipations que la Réserve fédérale américaine, mais aussi que la Banque centrale européenne, face à cette volatilité, eh bien, vont être obligées, ces deux banques centrales, de baisser rapidement leur taux d'intérêt. Donc on voit que cette semaine a apporté énormément de choses au marché.
Suite à ce revirement, John, est-ce que les marchés boursiers se sont ont rattrapé, on va dire, un bout ou partiellement le chemin perdu ?
Non, parce que on est toujours dans une situation où les menaces de représailles chinoises sont présentes, les tarifs sur la Chine de la part des Américains sont toujours présents. Il faut rappeler quand même une chose, c'est que en 2018, les entreprises américaines avaient perdu 30 milliards de dollars. Elles avaient dû payer 30 milliards de dollars supplémentaires face à une taxe de 10% seulement qui avait été mis en place par les Chinois. Aujourd'hui, on parle de 125%. Donc théoriquement, la facture
de
pour
quel
les
côté, pardon,
américaines...
Moi, je suis resté à une surtaxe américaine sur les produits chinois à hauteur de relevé par Trump à 145% et les Chinois qui répliquent à 125% sur les produits américains. L'escalade se poursuit.
Tout à fait. L'escalade se poursuit à 125% et si les 125% d'importation sur les produits américains de la part de la Chine devaient rester sur ce chiffre, eh bien, ça pourrait coûter pour les entreprises américaines un surcoût de près de 400 milliards de dollars. Donc on imagine bien ici que c'est un impact extrêmement fort sur la croissance économique américaine. Donc je dirais que aujourd'hui, en l'état des choses, parier sur un rebond des bourses et des marchés financiers pour revenir au niveau où on était avant l'escalade des tarifs, eh bien, c'est aujourd'hui totalement impensable.
Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci John.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour ce matin. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Vous restez avec nous, bien sûr, sur Radio Classique. Dans quelques instants, l'émission Bande à part avec Guillaume Durand.
Les journées de la sécurité routière au travail, c'est du 12 au 16 mai. On en parle avec Jean-Marc Fedutti, vous êtes le gérant de Flandre C2E à Auchy-les-Mines, où je vous appelle. Alors Jean-Marc, pourquoi participez-vous à cet événement ?
Vous savez, les accidents de la route sont la première cause de mortalité dans le cadre du travail.
Ah oui.
Et les conséquences sont lourdes, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs.
Et donc, comment sécurisez-vous vos salariés ?
Eh bien, on a instauré un contrôle régulier des véhicules de société, sensibilisé nos collaborateurs par de l'affichage dans les locaux, et on a créé un challenge sécurité pour encourager les bons comportements sur la route, avec bien sûr l'attribution d'une prime de fin d'année en bon d'achat.
Merci beaucoup.
Pour participer aux journées de la sécurité routière au travail, rendez-vous sur sécurité-routière.gouv.fr.
Des frais de santé bien remboursés et pas trop chers, efficaces, la Mutuelle Saint-Martin propose des options adaptées à tous les budgets. Des remboursements sous 48 heures et un suivi en ligne. Elle se charge de résilier votre mutuelle actuelle. Fraternelle, elle répond à vos demandes par téléphone. Une adhésion sans condition d'âge ni examen médical et à partir du troisième enfant, les autres cotisations sont offertes. D'inspiration chrétienne, elle est ouverte à tous. Mutuelle Saint-Martin, efficace et fraternelle depuis 75 ans. Devis au 03 28 76 36 34 ou mutuellesaintmartin.fr.
Aujourd'hui, Sylviane a le sentiment du devoir accompli. À 78 ans, elle vient de donner un coup de pouce financier à ses petits-enfants. Mais surtout, Sylviane a fait une donation à la Fondation Foch. Elle aide ainsi 300 médecins et chercheurs de l'hôpital Foch à combattre la maladie et soutient une médecine d'excellence au service de tous. Legs, donation, assurance vie, comme Sylviane, soutenez l'hôpital Foch. Appelez le 01 46 25 27 74 ou connectez-vous sur fondation-foch.com.
Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la Peugeot 208. Vous pensez, pas mal. Et si je vous dis qu'elle est proposée en version électrique, hybride ou essence? et qu'elle est à partir de 170 euros par mois et toujours jusqu'à 8 ans de garantie offerte, là, vous pensez que c'est vous qui devriez être à son volant.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 2500 euros pour une 208 style essence neuve réservée aux particuliers jusqu'au 30 avril si acceptation crédit part. Garantie à l'URCAIR, conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer.
Deuxième avis ?
Chut, tu fais quoi là ?
Je consulte les astres.
Ah bon ? En plein jour ?
Non, parce que le médecin vient de me dire de me faire opérer, mais bon, j'aimerais bien avoir un deuxième avis quand même.
Et du coup, ils disent quoi les astres ?
Bah d'attendre la nuit, il paraît qu'elle porte conseil.
Bon, ben, attendons.
Attendre des siècles pour obtenir un deuxième avis, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel et deuxièmeavis.fr, obtenez un deuxième avis médical en moins de 7 jours. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
L'orgueil, mon sang ! Ça, bon sang ! C'est de la bouillie, tout ça ! C'était pas mauvais, c'était très mauvais.
Je savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
8h30, 9h30.
Heureusement que j'ai des nerfs, sinon... Vous imaginez, si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, qu'elle est moche.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
C'est vrai qu'on a un peu de mal à imaginer Bernard Blier jouant du violon. Le violon, cet instrument indispensable à toutes les formes de musique. Voici un certain nombre de citations qui peuvent vous faire rire avec le violon. Il faut choisir, ou bien tu joues juste, ou bien tu joues tzigane. Les amis sont comme les cordes du violon. Il ne faut pas les tendre ou trop les tendre. Il faut acheter au son du canon et vendre au son du violon. Et enfin, le bonheur ne serait pas le bonheur sans une chèvre qui joue du violon. Nous sommes avec Sam Blumenfeld, Carole Beffa et Marc Lambron, et nous allons commencer tout simplement par Mozart avec le concerto pour violon numéro 3. C'est un chef-d'œuvre absolu par Isaac Stern, un des plus grands solistes du XXe siècle. Isaac Stern a eu la particularité, en dehors du fait qu'il est ukrainien et que donc c'est une bonne occasion de rendre hommage à ce pays, il a eu la particularité, en dehors de son activité musicale, de sauver totalement le Carnegie Hall qu'il adorait à New York, où il adorait jouer, et ça a fonctionné. Le voici donc avec le Columbia Chamber Orchestra, nous sommes en 1950 et Mozart est la partition. Vivaldi, Paganini, Isaac Stern, David Oistrakh, Anne-Sophie Mutter, Renaud Capuçon, les noms des grands violonistes résonnent dans l'histoire de la musique. Le violon peut être une certaine forme de prison, disent certains intellectuels comme Blumenfeld, Carole Beffa et Marc Lambron, qui sont en train de dormir mais que je vais réveiller. Une prison, car quand on n'est pas brillant, ça devient un enfer absolu. Est-ce que vous avez ce sentiment ? Mon cher Carole, vous qui êtes le plus... Tais-toi, Laurent, qui est le plus
compétent. Les cordes ne sont pas des barreaux.
Les cordes ne sont pas des barreaux. Mais c'est vrai qu'on peut jouer de la guitare médiocrement, du piano pour s'accompagner et chantonner. Le violon, c'est quand même une sorte de montagne.
À votre avis, pourquoi, mon cher ?
Ben, je pense que les mouvements sont dissociés entre les doigts gauche et l'archet à droite.
Non, ce n'est pas la raison. Parce que ça, vous le trouvez aussi à la guitare. Et la guitare est un instrument antisymétrique comme le violon.
Oui, sauf qu'il n'y a pas d'archet, les guitares.
Et plus exactement, il y a des strettes, mais vous n'avez pas la nécessité de construire, on va dire, la justesse.
Bon, maintenant que vous êtes réveillé, donnez-moi votre réponse.
Mais la réponse, elle est qu'au piano, vous ne jouez pas des quarts de ton, vous jouez toujours Les notes telles qu'elles sont, vous n'avez pas à vous préoccuper de questions de justesse mm-hmm. et de hauteur.
Au de placement de doigts, c'est ça, sur les contrebasses aussi.
Qu'est-ce qui fait que les parents d'apprentis violonistes vivent un calvaire pendant 3 ou 4 ans? C'est que ça met un certain temps avant de pouvoir faire sa note, comme on dit.
Et donc, tous ceux dont on vient de parler, c'est-à-dire les Stern, Oistrakh et les autres, Isaac Pellerman nous a parlé dans un instant, qui a obtenu une vingtaine de Grammy Awards, sont absolument des génies de cet instrument complexe et compliqué. Nous parlions tout à l'heure de Paganini et de Vivaldi, donc le prêtre roux. Voici Giuseppe Tartini, Devil's Thrill, justement par Isaac Pellerman en 1990, présentation de Marc Lambron qui vient lui aussi de se réveiller. Et Tartini et Isaac Pellerman pour que le diable entre en scène. Pourquoi, Marco ?
Avec sympathie pour le diable. Alors, il s'agit d'une sonate en sol mineur, dite des Trilles du diable, qui est signée par Giuseppe Tartini. Il était né en 1792, il meurt en 1770. Il était violoniste. Mm-hmm. Il dirigeait une école renommée de musique à Padoue et il est l'auteur d'un traité de l'ornementation. Mais en 1713, il reste encore 2 ans de vie à Louis XIV en France, il rêve. Qu'il a fait un pacte avec le diable qui se met à son service et improvise une sonate. Donc il dort. Et au réveil, il essaie de transcrire cette musique finalement onirique. Alors vous avez entendu, célérité, dissonance, assez rare pour l'époque, et usage d'une quinte diminuée qui passe pour diabolique dans la musique baroque, mais qu'on va aussi retrouver chez Black Sabbath. Donc la quinte diminuée a connu une longue vie démoniaque.
Tartini Giuseppe, voici l'un des morceaux les plus célèbres, violoniste célèbre de son époque, on l'appelait le prêtre roux. Il est inutile de vous présenter donc ce gigantesque violoniste que fut Vivaldi et ses 4 saisons dont voici le printemps. C'est extraordinaire, 4 saisons qu'on pouvait écouter, réécouter, comme la partita numéro 2 de Jean-Sébastien Bach. Maya Lévy est au violon en 2019 et c'est Carole qui va vous en parler avec brio.
Musique
Partita numéro 2, donc de Jean-Sébastien Bach. C'est Maya Lévy qui est au violon. Nous étions en 2019 pour l'enregistrement. Vous le savez peut-être, les garçons, mais la deuxième femme d'Einstein, s'appelle Elsa, est tombée amoureuse d'Einstein parce qu'il jouait, semble-t-il, magnifiquement du violon. Cette partita vous plaît pourquoi?
Alors, Marc disait en off que dans cette partita, nous avions une chaconne, redoutable chaconne, célèbre chaconne, peut-être l'une des pièces les plus expressives qui a été écrite pour le violon seul. Mm-hmm. Et c'est vrai, j'aurais pu choisir la chaconne, mais je pense que l'esprit de liberté de rhapsodie, que l'on trouve très bien sous les doigts de la multi-récompensée Maya Lévy, apparaît très bien ici, avec cette espèce de grâce incroyable. On a l'impression d'avoir affaire à une déambulation, une rêverie, et quelque chose qui convient tout à fait à l'instrument, qui n'est pas tellement utilisé, comme c'est le cas pour la chaconne, de façon harmonique, mm-hmm. avec ses doubles cordes. Hein. Comme vous le savez, mon cher Guillaume, le violon a quatre cordes. On peut, sous certaines conditions, jouer des doubles, des triples, voire des quadruples cordes, ce qui permet d'obtenir une certaine polyphonie dans l'instrument, qui est plutôt sinon essentiellement monodique. Et là, on a plutôt ce caractère monodique.
Vous êtes franchement le seul contributeur des émissions qui existe au monde.
Dites-moi.
Qui employait le mot monodique. Je parle en France, hein, je dis au monde, restreignons quand même nos ambitions.
Peut-être.
Mais monodique, il fallait attendre.
Et ça dit bien ce que cela
mais
dit.
Mais absolument, mais elle dit le contraire.
C'est une mélodie mono, c'est-à-dire une mélodie pour un seul instrument. Voilà.
Non, mais j'ai pas dit le contraire, mais c'est bien. C'est
bah, le passage de la monodie à la polyphonie définit tout de même la musique médiévale allant vers la Renaissance.
Très bien.
Expliquez-moi, mon cher Carole, et d'ailleurs les autres aussi, si vous voulez vous mettre la conversation, pourquoi la plupart des grands solistes aujourd'hui jouent Guarnieri, jouent Stradivarius, et non pas des violons de qualité exceptionnelle qui existent aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la différence?
Alors, des études menées il y a une dizaine d'années, qui ont été reproduites dans d'excellentes conditions, avec un protocole expérimental extrêmement soucieux et perfectionné, montre que probablement c'est un effet assez curieux parce que en réalité à l'aveugle.
Mais c'est un vieillissement,
si vous prenez.
C'est une technique,
si
c'est
vous prenez
un bois particulier.
Un piano comme celui qui aurait appartenu par exemple à Chopin, si vous le jouez aujourd'hui, il faut bien sûr qu'il y ait quantité de
réparation.
De réparation qui a été faite. Et en règle générale, on aura tendance à considérer, à tort ou à raison, que sa valeur décroît avec le temps. Mm-hmm. Pour les instruments à cordes, surtout lorsqu'ils ont été fabriqués par des génies de la lutherie, eh bien, ce n'est pas vraiment le cas. Mais semble-t-il, c'est peut-être une illusion rétrospective qui fait que on pense qu'un, par exemple, un Stradivarius joue mieux qu'il ne joue en réalité. Certains tests à l'aveugle auraient tendance à montrer, depuis une dizaine d'années, qu'on est influencé par le fait de penser que l'on joue sur un excellent...
Et pourtant, les grands violonistes du monde tiennent à leur Guarnieri, tiennent à leur Stradivarius.
Et le font tout à fait. Et si cette information que je viens de vous révéler, eh bien, elle était au monde entier, peut-être que la cote de ces violons chuterait comme actuellement les cours de Wall Street.
Au bénéfice des violons japonais, n'est-ce pas?
Par exemple.
Enfin, quand même, Rabelais, c'est mieux qu'Houellebecq. Ça vaut aussi pour la littérature.
Johannes Brahms, finale du concerto pour violon en ré majeur, bande originale de There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, par Anne-Sophie Mutter. Anne-Sophie Mutter a la caractéristique parmi les grandes violonistes. Donc là, elle joue avec le Philharmonique de Berlin, dirigé par Karajan. Donc nous sommes dans le classique classique. Mais elle a consacré une grande partie de sa carrière volontairement à la musique contemporaine aussi. Et c'est une manière de lui rendre hommage avant que nous nous parlions de ce film très particulier qui raconte l'histoire d'un papa et d'un petit garçon. Nous allons voir ça avec Samuel. Thank you. non seulement la musique de Brahms, c'est exceptionnel, nous allons la garder en fond avec les explications de Samuel, mais ça nous donne l'occasion justement de vous montrer les prodiges que réalisent les Stern, les Perlman et les Anne-Sophie Mutter. Alors parlons un peu de ce film qui a valu à Daniel Day-Lewis, si ma mémoire est bonne, encore son énième Oscar, non ?
Tout à fait, c'était son deuxième Oscar.
Mm-hmm. Donc moi, énième, c'est deux, moi je suis beaucoup moins sophistiqué.
Ah non, mais il en aura un troisième pour Lincoln.
C'est vrai.
Et comme il tourne une fois tous les 10 ans, en fait, il aurait pu, s'il avait tourné à un rythme régulier, il en aurait collectionné 6 ou 7. Mm-hmm. Donc, Daniel Day-Lewis, dans There Will Be Blood, un des grands classiques du cinéma américain des années 2000, il n'y en a pas tant que ça. Donc, Daniel Day-Lewis en Foreur de pétrole, mm-hmm. qui arrive finalement à trouver de l'or noir et qui donc devient cet entrepreneur maléfique, mis en scène dans ce film magnifique, adapté donc du roman éponyme d'Upton Sinclair. La musique principale du film, c'est Johnny Greenwood, le musicien de Radiohead. Mais il y a, dans une des rares fois au cinéma, parce que le violon est assez peu utilisé au cinéma, mm-hmm. Anderson s'appuie justement sur ce concerto de Brahms pour illustrer les moments les plus dramatiques du film, un moment où le pétrole jaillit enfin, qui est à la fois le bonheur et le malheur du personnage principal. Et puis aussi pour signaler à la fin du film que le titre du film, There Will Be Blood, il y aura du sang, va effectivement pour de bon tenir sa promesse.
Mais c'est une partition exceptionnelle de Brahms et nous abordons maintenant ce que Carole esquissait tout à l'heure, bien que nous ayons eu affaire jusqu'à présent à des partitions difficiles avec des violonistes de génie. Là, c'est Niccolo Paganini qui fut un très grand, peut-être le plus grand des violonistes, mais évidemment nous n'avons aucun enregistrement. Voici le Caprice numéro 24 qui est interprété par Julia Fischer en 2010 et ça passe, et je parle sous le contrôle de notre amie Carole, pour une des choses les plus difficiles à jouer au violon. Écoutez.
Thank you.
Voilà, Paganini est un peu comme Franz Liszt. Il y avait dans toute intention mélodique la volonté à la fois de créer de la grande musique et bien évidemment aussi la volonté de mettre en avant une certaine forme de virtuosité. Là, il faut aller partout sur ce violon, dans les fameux quarts de ton dont vous parlez tout à l'heure. Carole Beffa, mais dans les ambiances différentes, le tout en étant seul ou pratiquement seul. Ce qui est extrêmement compliqué, rendant hommage à Julia Fischer. Le Rubinstein Klezmer Project joue Odessa Bulgare, air traditionnel juif, qui plaît tant à Marc Lambron. C'est un enregistrement qui date de 2013. Ces différentes musiques depuis le début grâce à ce magnifique violon Mozart, Tartini, Bach, Brahms, Paganini, donc et le Klezmer Project. Après tout à l'heure, donc le printemps du Vivaldi, nous terminerons cette première partie par Bernard Herrmann. Ça vous plaît, mon cher Marc? Je vous imagine l'Académie française en train de jouer justement ou en tapant du pied.
Beaucoup, parce que c'est une musique universelle qui est jouée ici par le Rubinstein Klezmer Project. C'est un trio violon, accordéon, piano qui a été fondé par un accordéoniste bosniaque qui s'appelle Almir Meskovic. Alors là, en 2013, ils enregistrent un album, Fiddler on the Road, avec des thèmes Klezmer, mais aussi judéo-espagnol, ce qu'on appelle le ladino et même balkanique. Alors, Odessa Bulgare, c'est un thème traditionnel de cette musique Klezmer qui est répertoriée dès le 15e siècle, évidemment en Europe centrale, qui était associée au yiddish quand elle était chantée et qui était portée par les klezmorim, qui étaient des musiciens itinérants. La finalité était la danse et ils étaient renommés pour leur grande souplesse, ils s'adaptaient au rythme des danseurs qui se fatiguaient. Alors on peut dire que c'est un genre qui a été repris en charge après 1945, tant en Europe qu'aux USA, avec des extensions vers le jazz, vers le pop aussi, la pop. Ici, la mouture
notamment était... l'orchestre complètement dingue des Miakoustouris, ça.
Et en effet, ben ça c'est le côté balkanique. Alors pour le coup, qui est pas absolument klezmer. Et ici, peut-être plutôt de cigane d'ailleurs. Ici, c'est la mouture classique. Hein. Bien entendu, il y a allégresse et mélancolie, qui est typique de l'esprit du Yiddishland, qui est perdu comme territoire, mais qui est préservé dans son esprit par la musique.
Bernard Herrmann, Marion et Sam, rappelant l'excellent livre de Carole Beffa, on se demande sur qui il n'écrit pas. La bio de psychose d'Alfred Hitchcock, 1960. Bien évidemment, ceux qui ont peur peuvent se planquer sous la table. Thank you. ce romantisme Samuel de Bernard Herrmann, on l'a tous oublié, parce que quand on pense à Psychose et violon, on pense à ça, la douche.
La fameuse musique de la séquence de douche est presque une partition à l'intérieur de l'incroyable partition de Psychose. À l'origine, Hitchcock pensait en fait à une musique symphonique pour son film. Et Bernard Herrmann lui avait dit, mais non, c'est un film à petit budget, en noir et blanc. Donc il est logique que l'équivalent de ce noir et blanc, en fait, soit un pupitre de violon. C'est ce que va mettre en place Herrmann de manière absolument géniale. Parce que tout simplement, cette musique, en fait, qui accompagne d'abord le couple adultère de Marion et Sam, à savoir Janet Leigh et John Gavin. Cette histoire, en fait, dont on aperçoit peu à peu le tueur en série, commence en fait comme une banale histoire d'adultère. Mais avec la musique d'Herrmann, en fait, cet adultère ne s'effectue pas non sous le sceau du péché, mais sous celui du mal. Donc pour un effet absolument incroyable. Juste une dernière chose. Lorsque Joseph Stefano, le scénariste du film, découvre la musique d'Herrmann dans la première projection du film, il écrit la chose suivante. « La première fois que j'ai écouté cette musique, j'ai compris ce que faisait Herrmann. Il prenait les tripes de tout le monde pour en faire de la musique.
Et la douche, vous supportez. Moi, ça m'a toujours foutu, mais c'est une des scènes de cinéma qui est pour moi quasiment invisible.
Alors je dirais la douche.
Je suis un grand garçon. Moi.
Alors je dirais la douche et ses spécificités. Déjà, Hitchcock ne voulait pas de musique. C'est Herrmann qui l'impose. Et puis l'autre chose, cette fameuse séquence de douche, ne l'oublions pas, elle est marginalement réalisée par Hitchcock et en fait mise en scène par le génial concepteur de générique qui s'appelait Saul Bass.
Et les cordes de violon, ce sont des boyaux en réalité.
Absolument.
C'est très Hitchcock.
Et c'est l'une des rares partitions quand même au cinéma qui soit exclusivement à cordes.
Yehudi Menuhin, Stéphane Grappelli, Jules Massenet, et puis donc Camille Saint-Saëns, les Beatles, Vittorio Monti, Henri Wisniewski. Voici le programme de la deuxième partie de Bande à part consacrée aux grands violonistes et aux grandes musiques, consacrée à cet instrument sublime et ô combien difficile.
Attention, événement. Radio Classique vous attend pour son grand concert d'été. Un festival d'émotions avec Strauss, Mozart, Bizet, Verdi, Beethoven. Venez écouter le meilleur du classique avec la soprano Angélique Boutteville, la pianiste Chani Di Luca et l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par Marc Leroy Calatayud. Le grand concert d'été de Radio Classique, animé par Jean-Michel Duez, les 20 et 21 juin au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservez dès maintenant au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechampselysees.fr.
Retrouvez le grand concert d'été de Radio Classique avec Échiquier Gestion Privée. Échiquier Gestion Privée, ensemble, faisons grandir votre patrimoine.
Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la Peugeot 208. Vous pensez, pas mal. Et si je vous dis qu'elle est proposée en version électrique, hybride ou essence, et qu'elle est à partir de 170€ par mois, et toujours jusqu'à 8 ans de garantie offerte, là, vous pensez que c'est vous qui devriez être à son volant.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 2500€ pour une 208 style essence neuve réservée aux particuliers jusqu'au 30 avril si acceptation crédit part. Garantie à l'URCAIR, conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Le Parisien, aujourd'hui en France, vous invite à découvrir les plus belles randonnées de France dans son nouvel hors-série. Sentiers côtiers, chemins forestiers, itinéraires au cœur des vignes ou des montagnes, 15 parcours d'exception de 1 à 6 jours avec notre guide pratique. Les 15 plus belles randonnées de France, un hors-série Le Parisien aujourd'hui en France, chez votre marchand de journaux.
Madame Figaro, spéciale déco est en kiosque. On s'évade.